Nos jardins, nos régions, nos parcs sont habités par toutes sortes d'oiseaux que nous avons bonheur à observer. Pour nous aider à mieux les comprendre et à les apprécier davantage, j'ai grand plaisir cette semaine à recevoir nos spécialistes du Club des ornithologues de Québec, c'est le Coq, à la chronique Vol d'oiseaux. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gérard Cyr, qui nous avait initié au phénomène de la migration il y a quelques semaines. Monsieur Cyr, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Alors, votre sujet aujourd'hui, c'est la nidification. Ça, c'est intéressant aussi.
Oui, absolument.
Parce qu'ils viennent ici, vous nous avez dit, pour nicher, pour élever les petits, dans le fond, là. Oui. Alors, ils ont besoin de faire leur maison à leurs besoins.
Oui, absolument. Ici, lorsqu'ils reviennent ici, justement, c'est parce qu'ils ont des habitats propices pour être capables de nicher, pour être capables d'avoir assez de nourriture pour élever leurs petits. Le premier qui arrive normalement, parce que c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, mais c'est le mâle, il arrive en premier, puis il va sélectionner l'endroit où est-ce que c'est qui idéal pour nicher.
OK.
Puis il va s'installer, puis il va se mettre à chanter pour délimiter son territoire. Ça fait que autrement dit, on appelle ça un chant territorial. Il va chanter, puis son territoire, ça peut être ça peut être très petit, ça peut être 50, 60 mètres, jusqu'à, si on parle des plus gros oiseaux, jusqu'à 10 kilomètres. Mais sauf qu'il va délimiter son territoire, puis s'il y a d'autres mâles qui arrivent là, il va avoir des altercations vocales ou bien il va avoir des poursuites physiques. Là. Autrement dit, ça m'appartient.
Mais puis, dans la même espèce.
Ça va être la même espèce.
OK.
Et c'est sûr qu'il peut avoir des espèces apparentées, mais normalement, il peut avoir plusieurs espèces dans le même petit territoire parce qu'il n'y a pas tout à fait la même façon de se nourrir et pas tout à fait la même nourriture. Donc, le mâle, il s'installe, puis là, la femelle, elle arrive ou elle n'est pas loin, puis elle va choisir son mâle. Elle va choisir le mâle qui va avoir plus d'expérience, qui va avoir un meilleur chant, qui va avoir, autrement dit, pour la meilleure... pour avoir le meilleur suivi de l'espèce, si on veut, elle va choisir le mâle qui, autrement dit, les mâles de première année qui arrivent l'année suivante vont avoir moins de chance que celui qui a plus d'expérience.
Ben oui, ben c'est normal.
Ben absolument.
C'est comme dans la vraie vie. Donc, elle va choisir son mâle qui a choisi, lui, le territoire. Et comment ça se passe pour que, là, il décide de fonder famille? Là?
C'est ça. Ben lui, lorsque la femelle arrive, là, ben, on appelle ça... Il va faire des paranuptiales. Les paranuptiales, tout dépendant des espèces, ça va être différentes façons de faire. Il y en a qui vont se gonfler les plumes, qui pour attirer, pour montrer les meilleurs atouts, comme le carouge à épaulettes, lui, il élargit ses ailes pour montrer l'épaule rouge complète. Puis, ou bien il va avoir des poursuites. Pour montrer que c'est lui, c'est son territoire, puis c'est lui que la femelle doit choisir. Il va y avoir aussi l'échange de nourriture entre le mâle et la femelle, parce que souvent on voit ça, la porte à nourriture, on pense pour nourrir les jeunes, mais au printemps, c'est plus pour attirer la femelle.
Il l'invite à souper, là.
Il l'invite à souper. C'est lui qui fait le souper, en fait.
OK. Donc,
autrement dit, il est en train de faire son beau mâle. Là.
Oui, oui, oui.
Puis, certaines espèces, il va avoir des danses. C'est vraiment des danses...
Élaborées.
Là, comme
est-ce que vous en avez déjà vu?
Oui, c'est surtout de la famille des grèbes. Là. Ils font ça. Ils vont courir sur l'eau en étant surélevés. Puis, il y a des grèbes, il y en a qui... comme le petit grèbe à bec bigarré, c'est lui qu'on voit le plus souvent. Il va faire des poursuites comme ça. Là, puis c'est quand même impressionnant. C'est sûr que c'est pas comme... lui de la même famille, le grèbe de l'Ouest, c'est reconnu que c'est de toute beauté de voir ça, puis ça se fait les deux ensemble, là, c'est une vraie danse, là, c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis si on garde aussi, on parle des rapaces, là, c'est vraiment des vols acrobatiques, là. Il va se courir un à l'autre, là, puis il y en a un qui va se tourner, puis il va s'accrocher les serres, un au-dessus de l'autre. Là, c'est vraiment impressionnant de voir ça.
Eux autres, ils ont de la puissance. Hein? Ce sont des oiseaux puissants.
C'est des oiseaux, puis ils vont faire une parade, surtout en vol. Là. Ça va être... C'est vraiment des vols acrobatiques là, qu'ils font. Là.
C'est probablement de ces oiseaux-là que se sont inspirés les pilotes là, qui font des acrobaties aériennes. Hein?
C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de vols acrobatiques.
Alors, mettons que là, la femelle, elle a trouvé qu'il faisait bien à souper, qu'il s'occupait bien de son territoire, elle l'a choisi, ça y est. Là, c'est le temps de fonder famille.
C'est ça, exactement. Puis là, la femelle va commencer à aller chercher du matériel pour construire son nid. Ça fait qu'elle va faire des voyages fréquents pour aller chercher des brins d'herbe, un petit peu. Ça peut être des plumes, ça peut être des petits bouts de feuilles pour garnir son nid, puis faire son nid. Puis dans cela, le mâle, il la suit, mais la majorité du temps, il touche à rien, puis il la suit. Puis lorsqu'elle façonne son nid, lui, il chante. Il détermine son territoire, puis il est là, puis il chante. Puis c'est moi qui est là, puis la femelle est en train de travailler sur son nid. Puis il y a des constructions de nids qui sont vraiment... extraordinaire. On pense à l'auréole du bâtiment. Il tisse son nid carrément en deux branches, là, puis c'est comme une coupole qui descend. Puis c'est de...
Ça ressemble comme un petit peu à un petit nid de guêpe.
Oui, oui, c'est quelque chose de fermé. Exactement, sauf que c'est accroché à plusieurs endroits, là, puis ça descend comme une bourse là, qui est accrochée après. Là.
Wow.
C'est pas déposé dans une en deux branches comme beaucoup d'espèces, là, mais cette espèce-là va vraiment construire, tisser son nid. Là. C'est vraiment un travail super intéressant.
Ça peut prendre combien de temps à la femelle pour construire un nid? Est-ce qu'on en a une idée?
Oui, ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre quelques jours. C'est quand même rapide. J'ai déjà vu un troglodyte construire un nid en l'espace de 2 heures, je dirais. Là. Il était presque construit au complet, là. C'est vraiment, ils sont rapides. Puis, sauf que cette espèce-là, les deux travaillent pour construire le nid, mais la majorité des petits passereaux, des bourrins, des parulines, c'est vraiment la femelle qui s'installe et qui construit le nid. C'est relativement rapide quand même.
Vous avez parlé, M. Cyr, du territoire. Il y a une question qui me vient par rapport aux arbres. Est-ce que les espèces d'oiseaux ont déterminé, par exemple, la variété d'arbres qui leur est plus favorable?
Oui, mais c'est ça. Lorsqu'on dit qu'il s'en vient ici puis il va délimiter son territoire, il y en a quelques-uns que ça va être dans le haut des arbres, dans les feuillus matures. Il y en a d'autres que ça va être dans les forêts de conifères. Et tout dépendant des espèces, là, ils ont toutes leurs niches écologiques. Il y en a que ça va être niché, qui vont nicher à terre dans le champ. Il y en a d'autres, ça va être des petits bosquets sur le bord de la route ou sur le bord des petits ruisseaux. Puis c'est vraiment... Puis chaque espèce a la façon de construire son nid, tout dépendant des arbres qu'il choisit. Si c'est dans un feuillu, ça va être différent de celui qui construit dans un conifère, parce que le conifère est plus compact. Ils vont tout simplement déposer des brins sur la branche, alors que souvent, comme le Viriozuru, lui, ils vont construire un nid qui va être sur un embranchement de branches, où est-ce que c'est qu'il est capable de relier le matériel pour faire son nid.
Alors, plusieurs techniques de construction. Bien sûr, ils ont ces capacités-là de génération en génération, ça se transmet, là.
Oui.
Alors, une fois que le nid est complété, donc quelques jours à une semaine, bien là, c'est le temps pour la femelle de déposer les œufs. Et là, bien sûr, chaque espèce a sa quantité d'œufs, là.
Oui, c'est ça. Il peut y avoir 2, 3, 4, tout dépendant des espèces. Si on regarde au niveau des canards, ça peut être 12, 14 espèces.
Ah oui, c'est prolifique, ça.
12, 14 œufs dans leur nid. Chaque espèce, ça peut être... non que ça va être seulement 2, là, mais... Ça dépend aussi, souvent, les oiseaux qui sont plus jeunes vont pondre un peu moins d'œufs. Mais normalement, on peut avoir 3-4 œufs dans un petit nid de passereaux.
Est-ce que ce sont la plupart du temps les femelles qui couvent les œufs?
Oui, la majorité du temps, c'est la femelle qui couvre les œufs. Et le mâle vient nourrir la femelle dans le temps qu'elle couvre les œufs. Il va transporter de la nourriture pour nourrir la femelle. Puis, souvent, lorsque les jeunes sont nés, certaines espèces, c'est le mâle qui va s'occuper de continuer à nourrir le jeune. Les deux vont le faire, mais il y a certaines espèces que c'est seulement le mâle qui va faire ça, là.
Déterminé, ça.
Oui, c'est déterminé. Puis, dans le fond, l'élevage des jeunes, là, c'est majoritairement lorsque les jeunes sont en attente, mais le mâle et la femelle arrivent avec la nourriture, puis ils vont aller les nourrir. C'est sûr qu'il y a des exceptions. ça, si on regarde, par exemple, tantôt je parlais que c'était le mâle qui délimitait le territoire, mais il y a une espèce que, par rapport à ça, la plupart des passereaux, la femelle est moins éclatante que le mâle, justement parce qu'elle est sur son nid, puis il faut qu'elle soit plus discrète.
C'est pour se protéger, c'est du camouflage.
C'est du camouflage, en fait. Mais il y a une espèce, il y a trois espèces de phalaropes. Où est-ce que c'est le mâle qui est plus terne? La femelle est beaucoup plus colorée. La raison est simple, c'est que c'est lui qui fait l'inverse de la majorité des espèces. C'est lui qui va couver, qui va s'occuper des jeunes, qui va... La femelle, ce qu'elle vient faire, elle vient pondre dans son nid, puis c'est lui qui s'occupe de ça. Donc, lui, il est moins éclatant, moins coloré.
Et puis, c'est elle qui le nourrit, son mâle, pendant qu'il... Ça dépend.
D'après ce que j'en sais, la femelle, elle pond les œufs, puis elle s'en va.
Elle va faire d'autres choses.
Bon. Elle va s'occuper de faire une autre... Puis, il y a une autre chose que je voulais parler par rapport au comportement atypique comme ça, on parle, il y a une espèce de bruin, que c'est le bruin de Nelson. Lui, il va chanter, mais il n'y a pas de territoire. Il va chanter, puis ils peuvent chanter à différents endroits, dans le même environnement, mais ils ne défendent pas de territoire. La femelle arrive, puis elle va s'accoupler avec le mâle de son choix, ou un ou deux mâles, puis elle va construire son nid, puis elle va pondre les œufs. Puis c'est plusieurs mâles qui vont aller la nourrir dans le temps qu'elle est en train de nicher. Puis c'est plusieurs mâles et femelles qui vont nourrir, qui vont aider à...
Alors, c'est ça, atypique. Puis j'ai déjà entendu parler aussi des canards des femelles canards qui viennent pondre là où elles sont nées. Mais comme il y a plusieurs femelles canards qui sont nées là, il y a plusieurs femelles qui viennent empiler leurs œufs. Est-ce que c'est vrai, ça?
Oui, j'ai entendu des choses semblables. C'est assez spécial, là, de voir ce genre de comportement-là. Là.
Parce que c'est ça, il y a aussi ces espèces-là où, une fois les œufs pondus, il n'y a personne qui s'en occupe, puis les petits y arrivent, puis il faut qu'ils se débrouillent.
Mais en fait, on appelle ça les jeunes qui... c'est nidifuge. Autrement dit, les jeunes, ils sont complètement indépendants sitôt qu'ils sont éclos.
Ouais.
Il va sortir de là, ils sont à terme, mais il va sauter de l'arbre, puis c'est sûr qu'il va suivre la femelle, mais ils sont capables de se nourrir, de plonger, d'aller chercher de la nourriture, puis c'est sûr qu'ils sont protégés par une femelle, souvent. Comme on dit, il y en a peut-être un ou deux, là. J'ai même vu un endroit où la personne m'avait dit que la femelle avait disparu, puis les jeunes ont continué à croître quand même, puis ils sont devenus adultes, puis ils sont tous nourris dans le petit lac, ce que lui avait suivi, là, puis il a été capable de se débrouiller, là.
Alors, autant d'espèces, autant de comportements différents, mais tous leurs besoins. On vient donc d'apprendre avec vous quelques notions de la nidification de ces oiseaux qui visitent nos contrées. Monsieur Cyr, on se retrouve dans quelques semaines. Merci beaucoup.
Merci.